Ben là, on est dans les objets de collection, puis les affaires qui valent cher, puis peut-être pas cher, puis on sait pas trop, puis on se pose des questions. Alors, ça tombe bien parce qu'on a un expert avec nous ce matin qui va nous éclairer sur tout ça. Il est le président et fondateur de Classic Auctions, une firme qui se spécialise dans les enchères d'objets de toutes sortes de collections. Et il se nomme Marc Juteau. Bienvenue, Marc, à l'émission.
Bon matin, Richard. Merci de m'avoir invité.
Bon, alors, premièrement, là, on a une question brûlante. Il y a Hugo Reich ici qui a un chandail signé par les frères Costitine. Est-ce qu'on peut aller chercher au moins $1 million, Marc, avec ça?
Par les frères Costitine? malheureusement, non, c'est pas un million, un chandail autographié par les frères Costitine. Il aurait peut-être fallu le vendre quand ils jouent encore pour le Canadien. Ça aurait été le meilleur moment.
Bon, OK. Alors, on va. Si on veut devenir millionnaire ce matin, il va falloir penser à un plan B. OK, on va réfléchir à ça. Mais Marc, en attendant, écoute, est-ce que je me trompe? On dirait, bien, évidemment, il y a eu la pandémie, je pense, qui a fait en sorte que les gens se sont mis à fouiller dans leurs vieilles affaires, puis à sortir des objets, puis peut-être vouloir vendre ça, puis vouloir acquérir des choses. Mais est-ce que je me trompe en disant que présentement, Marc, il y a vraiment un vent de favorable là, pour tout ce qui est là, de collection de la chose sportive?
Ben, sans aucun doute, écoute, la pandémie a donné un gros tremplin là, tout ce qui était objet de collection. Ça a vraiment parti en fou là, pendant quelques années. Puis on dirait qu'à ce moment-là, il y a quand même plusieurs nouveaux marchands là, qui se sont démarqués puis qui ont réussi à construire sur cet élan-là. Puis aujourd'hui, on en voit peut-être un peu les conséquences. Là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux marchands, de nouvelles. Nouvelle figure, puis il y a beaucoup d'acheteurs aussi, là, donc non, le marché est absolument en santé, là, c'est un bon temps pour les objets de collection en ce moment.
Et quel objet en particulier a la faveur? Là, on sait que les cartes sportives, c'est toujours dans le haut de la liste, là, mais est-ce qu'il y a un type d'objet en particulier qui est recherché ces jours-ci?
Ben nous, on fait affaire un peu dans tous les types d'objets de collection d'hockey, surtout au niveau hockey, là, donc les chandails portés par les joueurs, les bagues, la Coupe Stanley, on vend quelques bagues, on vend quand même beaucoup de cartes, des cartes gradées, des autographes importants, des grandes vedettes de la Ligue nationale, puis je vous dirais que presque tous les domaines sont quand même en essor puis importants en ce moment, mais... Peut-être surtout les chandails puis les cartes, je vous dirais là. C'est peut-être les deux domaines en ce moment là qui attirent vraiment, vraiment l'attention, puis qu'il y a des. Où on voit des prix records. Là. Nous, on avait un chandail porté par Bobby Orr dans le dernier encamp pendant sa carrière avec les Bruins de Boston, puis il s'est vendu pour $210 000 américains. Donc, c'est quand même un prix vraiment, vraiment intéressant pour un item comme ça. Là.
Et la provenance d'un item comme ça, est-ce que ça vient du joueur lui-même la plupart du temps?
Non, pas nécessairement, parce qu'il faut pas oublier, les joueurs, pendant leur carrière, premièrement, des fois, les équipes vont donner des chandails pour des œuvres de charité, ils vont donner des chandails à des équipes de ligue mineure. Les joueurs eux-mêmes vont donner des chandails à des amis proches. Donc, tranquillement, pas vite, certains de ces objets-là là, ils font un peu leur place là, dans le marché, si on veut. Donc, ce chandail-là en particulier qu'on a vendu ne venait pas directement de Bobby Orr, mais sans aucun doute, il l'avait porté là, pendant la saison 1968-69.
Et je crois aussi, Marc, que de plus en plus d'anciens joueurs, évidemment, à l'époque, dans les années 60, 50, même 70-80, évidemment, les joueurs ne faisaient pas les salaires d'aujourd'hui. Ça, c'était d'autres réalités économiques. Et je crois comprendre qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont joué dans ces années-là, qui peut-être veulent faire un peu d'argent, léguer ça à leurs enfants, peu importe, et qui se mettent de plus en plus à vendre de ces objets-là. Hein. Ça, je pense que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, ça.
Ben oui, aucun doute. Écoute, je pense que les joueurs sont de plus en plus au courant du marché. Aucun doute là-dessus. Les joueurs sont de plus en plus informés, puis ils ont de plus en plus d'options à ce niveau-là. Mais il faut pas oublier qu'il y a certainement une question économique. Là. C'est sûr que c'est le fun, peut-être, à un moment donné, après ta guerre, d'échanger une partie de tes objets personnels contre de l'argent, puis de faire un peu de ménage chez vous. Mais il y a aussi le fait que si on retourne longtemps en arrière, là, avant que les joueurs soient au courant ou avant même qu'il y ait un marché aussi organisé, ben ça devait pas être rare qu'à un moment donné, quand les gens faisaient le ménage de leur sol puis qu'ils décidaient de déménager parce que les enfants étaient partis, ben il y avait peut-être une grosse partie de leur collection qui se ramassait sur le bord du chemin aussi. Fait que tu sais, Il y a ça, mais il y a aussi le fait que maintenant c'est tellement connu, donc ça donne la possibilité aux gens d'acquérir ces objets-là puis de les conserver à plus long terme aussi. T'sais.
Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez passer ces temps-ci qui peut être un peu spécial ou qui va être mis aux enchères? Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui vous ont étonné parce qu'ils avaient un petit peu à vendre?
Ben oui, oui, absolument. On est toujours étonné. Nous, c'est sûr qu'on fait des approches avec certains joueurs. On parle régulièrement avec plusieurs joueurs de leur collection. Puis des fois, c'est des discussions qui s'étalent même sur des années. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un coup de téléphone, là, puis qu'il y a un joueur qui est intéressé à vendre ses objets personnels, ben c'est toujours une surprise. Puis c'est toujours fascinant de voir ce que les joueurs ont pu garder puis ce qu'ils ont dans leur collection personnelle. Là, c'est vraiment intéressant.
Ben j'ai vu, je me souviens. Je crois que c'est Mike Bossy est-ce que c'était sa famille? En tout cas, j'ai vu qu'il avait beaucoup conservé de ses choses dans sa carrière. Puis là, à un moment donné, ça s'est ramassé aux enchères. Puis c'était assez volumineux. Il y a des joueurs comme ça, Marc Juteau, qui conservent énormément là, de matériel. Puis que ça se retrouve sur les enchères des années plus tard.
Ben ouais, c'est ça, mais il y a vraiment des joueurs qui ont une fibre de collectionneur aussi, là, qui prennent un réel plaisir à conserver non seulement leur item, mais des items des autres joueurs. Puis ça, on voit ça de plus en plus. Là. Maintenant que les joueurs sont au courant de ce marché-là, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent présentement dans la Ligue nationale que l'on côtoie de façon régulière, puis qui nous disent « Moi, je collectionne les bâtons puis les chandails ou je collectionne des choses portées par certains de mes coéquipiers ou par des joueurs de d'autres équipes, puis ils prennent un réel plaisir à ça. » Donc, oui, de plus en plus, on voit qu'il y a des joueurs qui accumulent des collections personnelles, aucun doute là-dessus.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple de quelque chose là, qui est de peut-être inusité, de spectaculaire que vous avez vendu aux enchères récemment?
Ah ben c'est sûr qu'un des systèmes les plus inusités, là, c'est pas nécessairement récemment, mais ça fait toujours rire les gens quand on dit qu'on a déjà vendu à l'encan le partiel, là, c'est-à-dire le dentier de Bob Éole qu'on avait eu à un moment donné. Là, puis ça avait réellement été chercher un prix intéressant, là, quelques milliers de dollars, je pense. Puis ça venait avec une histoire quand même assez cocasse. Là, donc ça peut faire partie des systèmes inusités, là, mais sinon. On vend tellement d'items, là, des milliers et des milliers d'items à chaque année. Là, donc, c'est sûr qu'il y a toujours des choses quand même assez uniques là-dedans.
Là. Mais là, il faut savoir l'histoire. Là, comment est-ce que le dentier de Bobby Hall s'est ramassé là, aux enchères? C'est quoi le fond de l'histoire exactement?
Écoutez, c'est vraiment, vraiment cocasse. Nous, on était quand même assez choyés. Là, ici, on avait une très, très belle relation avec Bobby Hall. Il venait régulièrement à Montréal, puis il venait nous voir, puis passait beaucoup de temps avec nous. Puis à un moment donné, Bobby Hall m'avait appelé, puis il m'a dit « Écoute, Marc, je viens de retrouver mon vieux dentier qui date des années 50. Il dit, j'aimerais ça le vendre à l'encan. » Puis il dit, si je te raconte l'histoire, tu ne me croiras pas. Il dit « J'avais été en République tchèque à la fin des années 50 pour un tournoi d'hockey qui incluait plusieurs joueurs des Blackhawks, des Rangers. Puis je pense que Maurice Richard était là aussi, là, si je me trompe pas. Il faudrait faire un peu de recherche, mais je pense que Maurice Richard était du voyage. » Puis il dit, écoute, je m'étais fait une blonde en République tchèque. Je pense que j'avais perdu mon dentier chez elle dans son lit, puis elle me l'avait renvoyé par la poste à un moment donné.
Bon. J'imagine qu'il y a eu quelques bières qui ont été consommées pendant ce voyage-là.
Ben, probablement, mais en tant que histoire inusitée, là, je pense que ça vient au-dessus de la liste. Là.
Et ça s'est vendu, c'est ça qui est le pire. Il y a quelqu'un qui a dit, OK, moi, ça me prend le dentier de Bobby Hall.
Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est vraiment intéressant. Je pense, si je me trompe pas, que c'est même un dentiste qui l'avait acheté, puis lui, il collectionnait les dentiers des personnes connues. Donc, il y a vraiment des gens qui collectionnent un peu tout, ça.
Wow. Et ça s'est vendu combien, ça, ce dentier-là?
Là, il faudrait que je fasse des recherches, mais je pense quelques milliers de dollars.
Wow, quand même.
Ouais.
OK, c'est quand même assez spécial. Et y a-t-il un proche second à cette histoire-là? Quoi d'autre là, d'inusité qu'on retrouve aux enchères là, parmi les objets de collection? Là?
Ben là, on a quand même quelques collections de joueurs qui s'en viennent à l'encan. On a un encan qui débute fin août puis qui va s'étaler là, sur les premières semaines de septembre aussi. Puis on a quand même des des collections intéressantes. Là, je pense à un gars comme Paul Laus qui met des objets à l'encan avec une superbe carrière. Lui, il a joué pour les Panthers de la Floride à partir du tout début, puis il fait partie de la finale de la Coupe Stanley, la fameuse finale contre Patrick Roy. Donc, il y a des super beaux objets là-dedans là, qui relatent un peu cette histoire-là, puis cette époque-là de la Ligue nationale qui était quand même vraiment intéressante. On a des items, là, des chandails portés par Mario Lemieux avec les Pingouins de Pittsburgh, des choses comme ça. Donc, beaucoup d'items quand même assez intéressants et assez importants.
Ben, c'est vraiment intéressant. Marc Juteau, tu nous permets de prendre une petite pause?
Absolument.
OK, alors on va, c'est vrai, très intéressant, puis il y a beaucoup de gens qui écrivent, on va tenter peut-être de répondre à certaines questions. On prend une petite pause et on revient tout de suite après avec Marc Juteau, qui est président fondateur de Classic Auctions. On va poursuivre notre très, très, très intéressante discussion avec Marc Juteau, qui est le président fondateur de Classic Auctions. Et Marc, là, j'ai plein de questions des auditeurs qui veulent savoir si ça vaut cher, ça vaut cher, ça vaut cher. Fait que on les passera pas toutes, mais Marc, en gros, peut-être juste pour aiguiller les gens, qu'est-ce que les gens peuvent avoir chez eux des fois, dans le garage, dans le sous-sol, qui a peut-être une valeur et ils sont peut-être pas au courant? Qu'est-ce qui pourrait étonner les gens là, de savoir qu'ils possèdent quelque chose de rare, à ton avis, selon ton expérience?
Écoutez, je pense que les gens, en général, là, ont probablement plus d'items dans leur sous-sol qui peuvent avoir une certaine valeur qu'on pense. Là.
Ouais.
Mais bon, c'est sûr que c'est certain que il y a les cartes, là, les cartes de sport, sans aucun doute. Là, il y a beaucoup de gens qui en ont gardé à travers les époques, c'est connu un peu là, par tout le monde en ce moment là, que ça a quand même une très, très grande valeur. Mais aussi, on peut voir ça des fois. Là, quelqu'un qui s'est fait donner un bâton de Guy Lafleur, disons, là, dans les années 80 là, ou fin des années 70, là, puis qui a conservé ça dans son sol. Ben nous, on en a vendu plusieurs, les bâtons de Guy Lafleur. Des fois, ils se vendent jusqu'à 1000, 2000 $ à l'encan pour un bâton utilisé dans le temps du Canadien. Fait que, ça peut être même une rondelle que les gens ont gardée d'un match là, des années 50-60. Les vieilles rondelles de cette époque-là peuvent valoir plusieurs centaines de dollars, juste une rondelle utilisée pendant un match. Donc, n'importe quoi, là, tous les souvenirs sportifs là, d'une ancienne époque, puis même quand même d'aujourd'hui, là, ça peut valoir quelque chose. Là.
Et est-ce que c'est vrai de dire que n'importe quoi qui est signé par un joueur important peut avoir une valeur? Tantôt, on faisait une blague, là, des gens qui vont au restaurant et qui revendent des napkins de table signés par, par un Guy Lafleur ou par Mike Bossy, peu importe. N'importe quoi signé peut être revendu?
Ben, ouais, il ne faut pas oublier que les joueurs d'aujourd'hui signent quand même beaucoup à grande échelle. Là. C'est des items qui sont mass-produced, là, si on me permet l'expression, là, mais les autographes des anciennes grandes vedettes du hockey, là, si on parle des Guy Lafleur, puis même on remonte avant ça, Maurice Richard puis Howie Morenz, ben c'est des autographes qui peuvent quand même valoir assez cher. Là. Mais de plus en plus, là, avec le marché, de la façon qui est établie, il y a beaucoup de ces autographes-là qui sont quand même faits à grande échelle, fait que j'invite les gens quand même à magasiner puis à s'informer avant de payer des grandes sommes pour des autographes, parce que les gens peuvent rester surpris à quel point c'est des items qui sont quand même assez disponibles si on se donne la peine.
Ouais, et puis est-ce que c'est quand le joueur est décédé qu'il y a plus de valeur ou ça n'a pas d'importance?
Ça peut avoir un effet à court terme, je pense, mais pas tant que ça. Là. C'est vraiment plus une question d'offre et de demande là, qui peut faire la différence. Plus un joueur est bon, moins qui s'apprête à l'exercice de faire des autographes, plus sa signature peut valoir cher. Là, si on prend un joueur comme Connor McDavid là, qui est sous contrat avec une compagnie américaine pour ses autographes, l'offre n'est pas extrêmement grande et la demande est extrêmement grande, ce qui fait que ses autographes valent quand même assez cher. Là.
Et pour Marc Juteau, y a-tu un objet qui est un objet recherché, qui est ce qu'on appelle en anglais le Holy Grail, là, tu sais, la pièce là, maîtresse, là, est-ce qu'il y a un objet en particulier qui est vraiment recherché?
Ben, moi, écoutez, ça fait quand même 30 ans que je patauge dans ce milieu-là, là. Donc, c'est sûr que j'en ai vu beaucoup, beaucoup d'items. Puis il y a plusieurs items importants qui m'ont passé entre les mains. Mais moi, je suis un grand, grand fervent de l'histoire du hockey, puis surtout de l'histoire du Canadien, là. C'est sûr que je suis un grand fan du Canadien, avoir grandi à Montréal. Puis à chaque fois que je peux mettre la main ou que je vois, disons, un chandail important, mettons là, un chandail porté par Maurice Richard là, dans le temps que je jouais avec le Canadien des années 50, là, je pense que le poil me raidit ses bras. Puis c'est vraiment des items importants là, qui, pour moi, qui m'impressionnent à chaque fois là, de penser qu'un aussi grande vedette a porté ça des fois presque pendant une saison complète, puis que ça fait partie de l'histoire.
Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il ne doit pas en avoir beaucoup sur le marché, des chandails portés par des joueurs des années 50?
Quand même, on pourrait rester surpris. Il y en a plusieurs. Mettons, si on prend Maurice Richard en particulier, là, il y en a beaucoup qui sont dans des collections privées depuis des années et des années, donc pas nécessairement disponibles au jour le jour, mais des chandails du Canadien là, qui a porté, là, je serais probablement capable d'en trouver au moins cinq si je me donnais la peine de faire une liste de ce qui existe là.
Ah oui, OK. Puis,
Voilà.
et si on en met un aux enchères, ça peut aller jusqu'à combien?
Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un en enchère. Ça fait quand même plusieurs années. Le dernier qui a été vendu, je pense que c'est nous qui l'avons mis à l'enchère il y a plusieurs années. Puis ça s'était vendu à cette époque-là, je pense, là, sous toute réserve, environ 150 000 $ américains. Donc, certainement plus aujourd'hui. Aucun doute là-dessus.
Et les bancs, on faisait des blagues sur les bancs tout à l'heure. Il y a une valeur pour ça. Je sais pas, un banc du Stade Olympique, un banc du Forum, ça peut aller jusqu'à combien, ça?
Ah oui, ben oui, hein, des bancs de forum, on en vend nous régulièrement dans chaque encamp, puis ils se vendent toujours pour des prix super intéressants. Là, on dirait qu'il y a toujours du monde qui sont intéressés de les vendre, puis de l'autre côté, toujours pour garder un équilibre dans le marché, des gens qui sont intéressés de les acquérir, puis ça se vend toujours plusieurs centaines de dollars, puis même des fois quelques milliers, tout dépendant si c'est des bancs bleus, blancs ou rouges, puis s'ils sont autographiés ou pas par des anciens joueurs. Là. Ouais.
Wow, ben c'est vraiment fascinant tout ça. Puis on vit vraiment dans un moment, dirais-tu, Marc Juteau, où ce que les objets comme ça n'ont jamais été aussi populaires. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un marché comme jamais, là.
Oui, aucun doute, mais il y a aussi les médias en parlent de plus en plus avec l'Internet, c'est de plus en plus facile à trouver puis à rechercher pour les gens qui sont intéressés de les acquérir. Fait que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes, mais aucun doute, le marché est un endroit en ce moment là, puis comme ça n'a jamais été. Là, je pense qu'il y a une demande, puis il y a un marché vraiment intéressant comme ça n'a jamais été. Puis nous, en ce moment, on vend à l'encage, je pense, presque le double du nombre d'objets qu'on vendait il y a 5 ans avant la pandémie environ. Fait que de notre côté aussi, là, ça a pris un réel essor, puis on essaie de suivre du mieux qu'on peut, là.
Bon, mais parfait. Ben Marc, si jamais tu veux mettre en consignation un chandail signé par les frères Costine, tu sais où me trouver.
Ouais, c'est bon, c'est notre item de la journée.
OK. Ben, merci beaucoup, Marc Juteau, président fondateur de Classic Auctions. Merci pour ton passage ce matin à l'émission.
Ouais, merci, Charles. Vraiment intéressant.
Merci beaucoup. Bye bye. On va aller prendre une petite pause et on se retrouve tout de suite après.